France Info.
Avec des températures un peu moins froides, du coup ce sera de la pluie et le vent va se lever, donc de la neige, on passera au sujet du jour, ça sera le vent, surtout vendredi.
Que de réjouissance, oui, merci beaucoup Christine Peña et merci à tous de nous écouter en ce 6 janvier, il est 5h. Et donc à la une ce matin de ce premier journal, un grand quart d'heure ouest qui est toujours en alerte orange, Christine nous le disait, de l'Île-de-France jusqu'à la Charente-Maritime en passant par la Bretagne. Témoignage dans un instant de travailleurs qui se préparent à faire face à la galère ce matin. À la une également, une enquête ouverte en France après l'incendie meurtrier de Crans-Montana en Suisse. Nous reviendrons sur la comparution historique de Nicolas Maduro, le président déchu du Venezuela, devant un tribunal de New York aux États-Unis. Et puis les JO de Milan-Cortina. C'est dans un mois tout pile et vous allez l'entendre, les travaux ne sont pas terminés. C'est sans doute l'une de vos interrogations ce matin. Si vous devez prendre la route dans l'un des départements concernés par l'alerte orange à la neige et au verglas de Météo France, comment m'organiser ? À Orsay, dans l'Essonne, Julie-Marie Lecomte, vous avez rencontré des Français qui ont voulu anticiper.
Solution radicale, retenue par Ismaël. Il est chauffeur-livreur pour une grande enseigne de commerce en ligne.
C'est mort. Je travaille pas. Je vais pas venir.
Aujourd'hui, Ismaël se fait porter pâle. Décision prise après une journée cauchemardesque hier.
C'était impraticable. Hein. En plus, avec les patrons qui nous mettent une pression pour livrer un peu des colis inlivrables. On nous a dit de rouler doucement, mais quand on a 180 clients, c'est compliqué. On va se préserver un petit peu.
Inès dit qu'elle a plus de chance. Un employeur assez souple. Elle travaille dans le marketing digital. Aujourd'hui, elle déclenche une journée de télétravail.
Pour éviter tout le monde sur le RER et les galères qui peuvent arriver dues à la neige. Et on reste au chaud.
À Orsay, il faut prendre le RERB, grosse perturbation. Et hier, pas de bus non plus. Salomé est étudiante sur le campus qui dépend de l'université de Paris-Saclay. Elle a reçu un mail de la fac.
Ils ont annulé les cours du matin. Toute la fac est fermée. Le matin, je vais travailler mes cours chez moi. Et puis l'après-midi, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Ils nous tiendront au courant dans la matinée.
Quant au collège où cette future professeure de sport fait son stage, aujourd'hui, il n'ouvre qu'à 10h au lieu de 8 d'habitude pour donner le temps aux élèves et aux enseignants d'arriver.
Et ce matin, les transports scolaires sont à nouveau suspendus en Île-de-France, en Bretagne, en Charente-Maritime, dans les départements des Deux-Sèvres ou encore de la Vienne. La justice suisse enquête, la justice française aussi. Désormais, le parquet de Paris s'est saisi une semaine après l'incendie en Suisse dans un bar de la station de Crans-Montana qui a coûté la vie à 40 personnes, dont 9 Français, avec aussi 23 compatriotes blessés dans ce feu. L'objectif du parquet, c'est de permettre aux victimes françaises d'avoir un point d'entrée dans notre pays avec la justice helvétique. Et puis ce matin, Aurélien Tirard, on en sait plus aussi sur le couple de propriétaires français de ce bar, notamment sur l'homme qui est déjà connu de la justice.
Oui, selon nos informations, cet homme de 49 ans installé depuis des années en Suisse a été condamné deux fois. La première par le tribunal correctionnel d'Annecy il y a 18 ans pour des faits de proxénétisme aggravé. Jacques Moretti avait pris 12 mois de prison dont 4 fermes. Sa seconde condamnation par le tribunal correctionnel de Bastia date d'il y a 16 ans pour fraude aux APL. Sa femme âgée de 39 ans n'a aucun antécédent judiciaire. Ce ne sera pas à la nouvelle enquête menée en France de chercher d'éventuelles responsabilités du couple. La procureure de Paris le rappelle. Les autorités suisses restent, je cite, compétentes pour enquêter sur le déroulé de l'incendie, elles qui ont déjà entendu Jacques Moretti avant de le laisser libre. L'enquête française permettra de faciliter, si nécessaire, les échanges des victimes avec la Suisse. Le parquet de Paris mobilise également la Fédération France Victimes. Elle proposera un accompagnement psychologique et juridique aux victimes et à leurs familles.
Merci Aurélien Tirard pour ces précisions. Service police-justice de France Info. Une piste est privilégiée désormais après cet incendie mortel à l'hôpital de hier dans le Var. Un paquet de cigarettes et un briquet ont été retrouvés dans le box où un patient septuagénaire a perdu la vie hier. Selon le procureur, le personnel l'avait déjà surpris en train de fumer. La prix Nobel de la paix et opposante vénézuélienne Maria Corina Machado dit vouloir retourner le plus vite possible dans son pays après la capture de Nicolas Maduro par les États-Unis. Le président déchu et son épouse qui ont fait hier soir leur première apparition devant la justice américaine, devant un tribunal du sud de Manhattan à New York. Tous les deux ont plaidé non coupables. Gwendal Lavina, vous avez pu assister à cette audience historique pour France Info.
Nicolas Maduro est le premier à entrer dans la salle d'audience, suivi par sa femme Cilia Flores, très fatiguée et amoindrie physiquement. En tenue orange et bleue des détenus, les pieds liés, ils saluent leurs avocats et s'emparent des casques nécessaires à la traduction vers l'espagnol. Face à eux, le juge Alvin Hellerstein, âgé de 92 ans, butera à plusieurs reprises sur des mots. Son rôle, rappelle-t-il, est de garantir un procès équitable. Nicolas Maduro se dit prisonnier de guerre et dénonce l'enlèvement dont il a été victime avec sa femme. Le juge l'interrompt pour l'informer que tout cela sera évoqué lors du procès. Sans surprise, Nicolas Maduro et Cilia Flores plaident non coupables, mais ne demandent pas leur remise en liberté. La prochaine audience est fixée au 17 mars. Lorsque le couple quitte la salle, un membre du public interpelle en espagnol Nicolas Maduro et lui dit qu'il paiera pour ce qu'il a fait. Maduro, le doigt levé vers le ciel, répond qu'il est un homme de Dieu et toujours le président du Venezuela.
Gwendal Lavina, correspondant à New York de France Info. Une réunion de cadrage cet après-midi pour la très médiatique commission d'enquête parlementaire sur, je cite, la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Le président de cette commission, un député Horizon, veut rappeler les règles à ses collègues pour éviter l'instrumentalisation et les dérapages. Les auditions déjà réalisées en décembre, notamment avec plusieurs personnalités de Radio France, ont donné lieu à des passes d'armes tendues, Audrey Tison.
C'est surtout le ton très offensif de Charles Alloncle, le rapporteur UDR, qui a donné lieu à des recadrages de la part du président Horizon de la commission, Jérémy Patrier-Lettus, par exemple pendant l'audition de Patrick Cohen.
Monsieur Cohen, vous semblez vous émouvoir qu'on puisse évoquer certaines affaires judiciaires, c'est votre droit.
Attends, monsieur le rapporteur, monsieur le rapporteur, ça suffit maintenant. Essayez de ne pas mélanger ou de distiller ici et là des éléments d'une procédure judiciaire.
Mais d'autres élus sont aussi recadrés. Ici, l'insoumise Ercilia Soudé.
On a une Sophia Aram, elle a un humour raciste. Est-ce que c'est davantage cohérent avec la ligne éditoriale?
Madame Soudé, s'il vous plaît. Et ici, c'est pas le lieu où on insulte les salariés du service public.
Une attitude qui provoque l'agacement d'autres députés, comme l'écologiste Sophie Taillé-Polian.
Nous sommes des députés, pas des procureurs. Je demande une réunion du bureau en urgence.
Réunion prévue cet après-midi. Le président Patrier-Lettus convoque les principaux participants pour refixer les règles.
Par exemple, le respect des personnes que nous auditionnons, le fait que la commission d'enquête ne se transforme pas en tribunal politique, ni en lieu de la politique spectacle.
Il va notamment demander que soient arrêtés les live tweets, ces extraits vidéo, parfois tronqués, qui sont postés sur Internet pendant une audition.
Audrey Tison sur cette commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public dont, je le rappelle, France Info fait partie. Dans un mois, vous pourrez vivre à nouveau au rythme des JO, dans un mois à pile. Je suis sûr que ça vous a manqué depuis la clôture des Jeux de Paris. Cette fois, ce sont les Jeux d'hiver. De Milan Cortina en Italie, c'est la troisième fois que nos voisins transalpins accueillent les JO. Et à un mois du début des compétitions, Bruno Duvic, les préparatifs, eh bien, ils ont pris du retard.
Les travaux ne seront pas terminés, loin de là. Selon une étude de l'association Libera, qui se bat pour la transparence dans l'organisation des JO, près de 60% des chantiers ne seront pas achevés. On parle des aménagements routiers et ferroviaires, notamment entre les lieux de compétition. Les implantations sportives, elles, seront prêtes, assure le président de la fondation Milan Cortina. Et oui, cela a été galère, reconnaît Giovanni Malago sur la RAI.
Il y a des excuses valables. En un peu plus de 6 ans, nous avons eu 2 ans de Covid, puis des guerres qui ont sérieusement compliqué la livraison de matériel et surtout ont fait grimper les coûts.
C'est le stade de hockey à Milan qui suscite le plus d'inquiétude. Il doit être inauguré cette semaine seulement. Autre dossier qui fâche les écologistes, la neige artificielle. Il n'y aura pas assez de blanc naturel. Avant Noël, la Fédération internationale de ski craignait en particulier pour la qualité des pistes de snowboard. Problème sur les canons à neige résolu, assurent les organisateurs. Coût total de ces Jeux, plus de 5 milliards d'euros. Pour l'instant, le coût estimé des Jeux d'hiver en France en 2030, selon l'inspection des finances, est de moitié moins.
Merci beaucoup Bruno Duvic en Italie pour France Info. Et je vous rassure, tout est prêt sur France Info pour suivre ces Jeux Olympiques qui commencent dans un mois. Christine Peña, c'est donc l'heure de votre météo. Alors c'est presque les Jeux d'hiver, votre météo.
Exactement.
Il fait bien froid et la neige est un peu partout.
Oui, un petit peu partout. Alors, il a beaucoup neigé effectivement. On fait attention au verglas, à la neige qui a gelé. Les sols sont vraiment très, très glissants ce matin. Cette neige au sol participe à faire baisser encore un peu plus les températures. Il fait vraiment vraiment très froid ce matin, avec parfois jusqu'à moins 10 degrés, notamment du côté de la Normandie. Nous avons moins 10 degrés à Alençon, comme à Millau, à Clermont-Ferrand également, moins 11 à Aurillac, c'est là où il fait vraiment le plus froid. Mais à Paris aussi, hein, nous avons des températures très froides. Autour de Paris, ça peut descendre à moins 7 degrés. Cette neige au sol va tenir, donc il neige encore sur l'ouest du pays, en Charente notamment, mais au fil des heures, le temps redeviendra sec et le soleil reviendra sur la moitié nord. À l'ouest également, Méditerranée, on a un peu de soleil. C'est un peu plus mitigé vers la Corse. Et puis du vent, pas mal de mistral et de tramontane.
Merci beaucoup Christine Peña, il est 5h10.
France Info, 6h-9h.
Bonjour, c'est Jérôme Chapuis. Je vous retrouve tous les matins dès 6h avec toutes les équipes de France Info, nos chroniqueurs, l'édito politique, le décryptage éco, France Info Monde, nos invités, les enquêtes et reportages de la rédaction, toute l'actu qui vous concerne pour rester informé en toute confiance.
6h-9h, du lundi au jeudi, c'est Jérôme Chapuis sur France Info.
Avenir d'ici 5h30 sur France Info, Donald Trump répète son envie de prendre le contrôle du Groenland, ce territoire du Grand Nord qui appartient au Danemark. Et les Danois, eh bien, ils sont divisés, certains sont en colère, mais d'autres, eh bien, attendent de voir. Nous serons à Copenhague dans une dizaine de minutes, mais d'abord les routes qui glissent, les trottoirs parfois impraticables, la neige et le verglas nous compliquent un peu la vie ce matin.
France Info, 5h-6h. William DeCosta.
Épisode météo qui a commencé hier avec des flocons qui sont parfois tombés en masse par endroits. 5 cm, c'est beaucoup pour les Côtes d'Armor à Rostrenin. La situation a vite viré à la pagaille, Nicolas Blanza.
C'est le début d'après-midi ici et la place du centre prend des allures de station de haute montagne.
Bon, ça peut être sympa, mais... pas trop longtemps.
Anne se précipite dans sa voiture pour rentrer chez elle quand les flocons deviennent tout à coup très gros et lourds.
Sale temps pour les Bretons.
Au pied de la collégiale, ici, les branches d'un sapin plient sous le poids de la neige.
C'est bien blanc partout, hein, y compris sur la route.
Bonjour monsieur, je vous rejoins.
On est bien content.
Ah, je l'ai fait glisser du coup.
C'est bon, ça passe.
Ça glisse, hein.
Bien content d'avoir un vessie dans un 4x4. Hein. Les voitures vont avoir du mal.
Ça patine.
Marche arrière, mais bon, ça va le faire. Je vais repartir, hein. Au pire, je vais m'arrêter là, parce que je vais aller chercher mon fils.
Bon courage.
Ouais, merci.
Vive la neige.
Ouais.
Ça noircit la neige au pot d'échappement.
Toujours des plus malins que les autres.
Sur le parking de la place, cet automobiliste commence, lui, à se gratter la tête dans le coffre de sa voiture.
Qu'est-ce que vous avez dans vos mains?
Des chaînes. Voilà, vous pouvez avoir un peu de matière.
Vous êtes le seul breton à avoir des chaînes?
Je suis bien breton parce que je ne sais pas comment les mettre.
Moi non, mais je peux pas t'aider.
J'en ai mis il y a 10 ans et à la montagne, donc c'est un peu plus probable. Mais j'ai le temps là, puisque je crois que ce qu'on voit là, il y a une trentaine de voitures qui sont bloquées dans la montée. Vous pouvez suivre.
Vous voulez qu'on lise la notice ensemble?
Non, mais je l'ai là.
À côté, un duo prend les choses en main, sifflé à la bouche.
Pénalty!
Carton rouge!
Vous êtes arbitre de foot dans la grille?
Ah bah non, non, on n'est pas équipe de foot, mais ça neige bien là.
Bon, on organise la solidarité là, on fait la circulation.
Tu déplaces ton camion, on va essayer de faire de la place.
Bah non, mais faut pas qu'il le double, il attend pour pouvoir défendre.
Mais fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe.
Voilà,
allez. Allez, la circulation, monsieur l'agent.
Chef, qu'est-ce que je fais, chef?
Ah, il y a un petit peu de neige, quoi, on va pas se prendre.
Alors, on en est où ici de l'installation des chaînes?
Bah, ça avance, mais c'est pas fini.
Bon, je reviens dans 10 minutes.
Bah, pour l'autre pneu, ouais.
Ce 5 janvier 2026 est déjà gravé dans les mémoires.
Reportage ici, Brézizel de Nicolas Blanza pour France Info. Les départements bretons qui restent en vigilance orange ce matin. La Vendée aussi, elle a vécu un épisode neigeux quasi inédit hier avec des transports scolaires qui sont supprimés ce matin. Alain Leboeuf est le président du conseil départemental de la Vendée et il était l'invité de France Info hier soir.
Nous ne sommes pas capables d'assumer une sécurité totale des transports. Il était impératif que nous ayons ces mesures de sécurité, comme tous les poids lourds d'ailleurs qui sont interdits aussi. Les prévisions, ou même nos techniciens ont de la peine à le croire parce que c'est pas tout à fait nos habitudes ici en Vendée. On nous parle de 10, 15 jusqu'à 20 cm de neige en Vendée, c'est du jamais vu, j'ai envie de dire. Nous avons un certain nombre d'équipements, mais nous ne sommes pas une région de montagne. On est plus habitué chez nous aux tempêtes, à gérer les tempêtes et les arbres couchés que de la neige dans une telle importance.
Il ne neige pas qu'à La Roche-sur-Yon, j'imagine. Toute la Vendée concerne.
Béarnais.
C'est toute la Vendée, c'est commencé par le nord, c'est arrivé sur la Roche-sur-Yon et les prévisions sont telles que Fontenay-le-Comte va être touché d'ici une demi-heure à peu près. Et donc tout le sud Vendée va être aussi impacté de la même manière. On imagine même, d'après Météo France, même 10 cm de plus sur le sud de la Vendée que sur le nord.
Est-ce qu'il y a des consignes de sécurité à respecter pour celles et ceux qui nous écoutent et qui habitent évidemment en Vendée?
Oui, effectivement, hein, c'est des consignes de sécurité vraiment pour tout le monde. J'entendais aussi certains qui disaient ben, « on va se rendre à pied au boulot pour ceux qui seront le plus proche possible de leur lieu de travail ». Certes, mais j'ai envie de dire « méfiez-vous quand même, y compris les trottoirs seront glissants, ils ne vont pas pouvoir être déneigés partout, avec ce qui est prévu en épaisseur de neige plus le gel dans la nuit, vraiment on va avoir une situation vraiment dangereuse, j'ai envie de dire ». Pour tout le monde, on a bien sûr les pompiers qui sont alertés pour pouvoir intervenir pour tout accident, pour chute, mais j'invite vraiment les uns et les autres à comprendre qu'on est dans une situation très exceptionnelle et qu'il nous faut éviter de prendre la route, éviter tout risque. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, vraiment, il faut rouler très doucement, surtout aucun geste, aucun comportement brusque, vraiment l'immense prudence, même si de notre côté nous allons tout faire pour déneiger, pour saler, pour rendre les axes majeurs le plus praticables possible, on ne peut pas assurer tous ceux qui vont prendre la route que les routes, y compris majeures, seront dans d'excellentes conditions de sécurité.
Est-ce que vous aviez déjà connu ça en Vendée ?
On a eu quelques rares épisodes, j'ai envie de dire, c'est quand même relativement rare, et lorsque l'on a vu ces quelques épisodes neigeux, c'était vraiment quelques flocons, j'ai envie de dire, voire quelques petits centimètres, mais qui ne duraient pas. Là, je pense qu'on est sur quelque chose d'assez exceptionnel. De mémoire, personnellement, je n'ai jamais vu une telle situation, en plus qui s'aggrave avec le gel par-dessus. Donc oui, nous sommes dans une situation très très exceptionnelle. Je comprends que mes collègues présidents de département dans les montagnes sont assez habitués, ils doivent rigoler d'une situation telle que nous la vivons.
Non, pas du tout.
Mais...
Je pense pas.
Nous avons plus l'habitude de gérer, nous, la montagne, la mer, pardon,
oui.
Excusez-moi. Et puis, éventuellement, des épisodes tempétueux, éventuellement un peu de verglas, mais de la neige dans ces conditions, vraiment, c'est, je crois, du jamais vu en Vendée.
Bon, le principe de précaution, jusqu'à quand, Alain Leboeuf ? Donc, pas de transport scolaire demain matin. Est-ce que ça va perdurer encore les jours d'après ou normalement, ça devrait aller mieux ?
Alors non, malheureusement, pas pour la journée de demain. Après-demain, oui, mais demain, nous restons inquiets. D'abord, demain matin, le gel va être très handicapant, avec une neige qui risque de fondre un petit peu dans la journée. Mais un nouvel épisode demain soir de gel, j'allais dire, et de pluie verglaçante vont rendre encore ces routes très très dangereuses. Donc, pour la journée de demain, c'est entre le matin et l'après-midi ou le soir, soyons tous très 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 prudents. Toutes nos équipes sont mobilisées, bien évidemment, mais on est sur une situation assez exceptionnelle.
Dernier mot, les transports en commun fonctionnent-ils normalement pour la Vendée, Alain Leboeuf ? Et est-ce qu'il y a aussi des centres d'hébergement d'urgence qui sont prévus au cas où ?
Les centres d'hébergement d'urgence sont ceux qui sont classiques pendant les périodes d'hiver, j'ai envie de dire pour l'instant. S'il y avait des incidents majeurs avec des gros regroupements, chaque maire est prêt, j'ai envie de dire, à intervenir et à ouvrir, y compris des salles de sport chauffées s'il le fallait. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans cet épisode-là parce que nous avons pu justement alerter les familles, alerter les établissements, alerter tout regroupement en les évitant.
Le président du conseil départemental de la Vendée, Alain Leboeuf, qui répondait hier soir aux questions France Info de Julien Langlais. À venir, la colère des Danois face aux nouvelles menaces de Donald Trump sur le Groenland. Nous sommes à Copenhague dans un instant.
France Info, 5h-6h.
Bonjour Maureen Suignard.
Bonjour à tous.
À 5h20, c'est l'heure de l'info en une minute avec vous Maureen. Et à la une, la prix Nobel de la paix qui veut rentrer au Venezuela.
Maria Corina Machado, la chef de l'opposition vénézuélienne, affirme vouloir rentrer le plus vite possible dans son pays. Déclaration alors qu'au même moment, l'ex-président Nicolas Maduro, capturé par l'armée américaine ce week-end, a été présenté à un juge aux États-Unis hier. Il a affirmé être un prisonnier de guerre. Il est accusé de trafic de drogue par l'administration Trump. Nicolas Maduro plaide non coupable. Restez très prudents ce matin si vous vous aventurez sur les routes du quart nord-ouest de la France. 26 départements sont en vigilance orange à la neige et au verglas, de la Charente-Maritime à l'Oise. Volodymyr Zelensky à Paris tout à l'heure. Le président ukrainien participe à une réunion des alliés de Kiev. Les pays européens et les émissaires américains vont se retrouver pour préciser les contours d'une force multinationale en cas d'accord de cessez-le-feu avec Moscou. Et puis du lait pour bébé qui ne doit pas être consommé. Nestlé lance une alerte sur certains de ces laits de la marque Gigos et Nidal en France et dans d'autres pays européens. Certains lots peuvent contenir une bactérie et entraîner vomissements et diarrhées. Les lots concernés sont à retrouver sur le site internet de Nestlé.
France Info.
Il a déjà ordonné la capture du président vénézuélien et il ne compte peut-être pas s'arrêter là. Donald Trump aux États-Unis menace la Colombie d'une intervention, mais aussi à nouveau le Groenland, territoire autonome de l'Arctique qui appartient au Danemark. Lui estime qu'il doit en prendre le contrôle pour assurer la sécurité nationale des États-Unis. Certains l'accusent de vouloir surtout s'emparer de ses ressources minières. Le gouvernement danois tente de calmer le jeu, mais qu'en pensent les Danois eux-mêmes? Vous leur avez posé la question. Gérard Mohamed.
Sur le vieux port de Copenhague, recouvert par une fine couche de neige, Torben se faufile à vélo jusqu'à notre micro. Car oui, des choses il en a à dire sur Donald Trump.
How dare him?
Comment ose-t-il?
How dare him?
Ce Danois de 76 ans est très remonté contre le président américain et contre ses dernières déclarations sur le Groenland.
Ça ne
m'inquiète pas, ça me met en colère.
Mais surtout, Torben se demande pourquoi son gouvernement à lui ne monte pas davantage au créneau.
Il faut montrer les crocs, mais nous on est trop bien élevés alors que ça devrait être œil pour œil, dent pour dent.
Il ne faut pas céder aux provocations américaines, estime de son côté Emilie, la trentaine. Conseillère en communication, elle salue la position de la première ministre danoise, Mette Frederiksen.
Je pense qu'elle fait bien. Elle marque son opposition avec fermeté et clarté, sans chercher à effrayer la population.
Alors que d'autres voient même une occasion à saisir, c'est le cas du jeune Edward, assez fan de la méthode Trump.
En fait, Trump est un homme d'affaires, donc je pars du principe qu'il veut juste faire du business.
Et vous, ça vous dérange pas ?
Non, ça ne me dérange pas tant que les Danois en ressortent satisfaits que c'est un bon point pour notre sécurité nationale. Je sais que beaucoup de médias sont contre Trump avec beaucoup de théories complotistes sur lui, mais moi je lui fais confiance et je ne pense pas qu'il soit dans son intérêt d'entrer militairement en conflit avec des pays chrétiens qui partagent les mêmes valeurs que lui.
Pour beaucoup de ces Danois, les États-Unis ne prendront jamais par la force le Groenland, c'est tout simplement inimaginable, car on ne s'attaque pas comme ça à un pays ami.
France Info, reportage à Copenhague, au Danemark, signé Agera Mohamed. Il est 5h23 et c'est l'heure du monde d'Élodie. Avec un humoriste et acteur ce matin.
Bonjour Arnaud Ducret.
Bonjour.
C'est grâce à votre rôle de Gabriel Digami en couple avec Isabelle, jouée par Alix Poisson dans la série humoristique Parents mode d'emploi diffusée sur France 2 puis sur France 3 que vous, le public vous a découvert. À la base, vous étiez chanteur de gospel puis humoriste dans l'émission Morning Live. Oui, ça remonte. Hein. Depuis vos débuts, ce qui est certain, c'est que vous aimez réellement toucher à tout avec une affection particulière quand même pour la scène et le théâtre. À partir du 22 janvier 2026, vous serez à l'affiche de la comédie culte de Sébastien Thierry, Cochon d'Inde, mise en scène par Julien Boisselier au Théâtre des Nouveautés, donc à Paris. Vous incarnez Alain Kraft. Alors c'est un bourgeois qui se voit avaler sa carte bancaire en voulant faire un retrait. Il se retrouve dans son agence bancaire et à partir de là, ça devient un cauchemar très vite parce que sa banque, il le découvre, a été rachetée par l'Inde.
Le groupe indien.
Et donc, il est sujet à partir de là aux lois indiennes. On se rend compte qu'il a changé de caste, il n'a pas le droit de le faire. J'ai l'impression que le théâtre vous permet ça, d'endosser des rôles improbables, ubuesques.
Bah ouais, et puis je suis bien accompagné là avec Emmanuel Bougerolle, Maxime Dabovy,
Will, Frédéric Cantrel, qui sont formidables. Mais quand j'ai démarré la pièce, j'ai trouvé ça anxiogène au début, hein, un peu. Je me suis dit, ah bon, il reste enfermé dans une banque. Ouais, moi, les finances, c'est pas bon, moi, je suis un artiste. Et en fait, on va découvrir pourquoi il est enfermé à la fin, évidemment, on va pas spoiler, mais tout d'un coup, ça devient totalement absurde. Mais, vous savez, c'est comme ces moments où, en fait, tu te dis, mais quand quelqu'un te parle dans la rue ou t'agresse, par exemple, dans le métro, une fois que c'est fini, j'aurais dû dire ça. Bon, bah là, lui, on va lui dire, tu peux plus sortir. Parce qu'en fait, vous avez changé de caste et vous gagnez beaucoup trop d'argent. Maintenant, c'est Bank of India qui tient et vous n'avez pas le droit de gagner autant. Et au lieu de se dire, bon, attendez, stop, je veux sortir, son téléphone ne capte plus. Et en fait, il est bloqué dans cette banque et il doit refaire des recherches sur lui, sur sa vie et savoir s'il doit pas donner un peu d'argent aux autres parce que il gagne trop de sous.
Ce qui est assez étonnant, c'est que plus on vous voit avancer dans le temps, plus on comprend que vous prenez de plus en plus de plaisir à jouer, à vous mettre limite par moment en danger. D'ailleurs, cette pièce, Cochon d'Inde, elle est pas simple du tout.
Elle est pas simple, non, non. Moi, j'adore la scène, donc j'avais très envie de faire du théâtre. J'en ai pas fait réellement professionnellement. J'ai fait une comédie musicale qui s'appelait Spamlot des Monty Python avec Pef. Et ça, ça a été mon expérience scénique avec toute une troupe. Mais moi, j'ai toujours aimé échanger avec les gens sur scène. Et donc, le théâtre, on m'avait proposé plusieurs choses. Et là, cette pièce, vraiment, je me suis dit, ouais, celle-ci, elle me plaît beaucoup et j'ai envie de la jouer. Et donc, j'ai envie de m'accomplir. Et ça passe par ça, quoi. Artistiquement, ça passe également par la scène, le théâtre.
Et par la voix. C'est pas un hasard si vous avez commencé par le gospel. Enfin, en tout cas, quand on regarde votre pédigré, on se rend compte que la voix, elle joue un rôle très, très important dans votre façon de vous exprimer, d'incarner le rôle aussi.
Oui, oui. Bon, déjà, moi, j'adore la radio. J'adore écouter la radio parce que j'adore écouter les voix. Donc, j'ai toujours aimé ça, mais ça, je pense que ça fait partie vraiment de notre métier. C'est le cœur, la voix, l'oreille. Et j'ai eu la chance de faire de la comédie musicale et du gospel, comme vous l'avez dit, plus jeune, ce qui m'a permis d'apprendre à poser ma voix, à harmoniser. Et c'est vrai que je pense que ça m'aide beaucoup maintenant.
Et à vous trouver aussi, vous étiez totalement cancre à l'école. Vous avez compris à ce moment-là, par le biais du travail, que vous pouviez changer ça, que vous pouviez être autre chose que ce que les gens pensaient de vous.
Bah, en tout cas, ou ce que je pensais de moi, parce que peut-être que les gens ne voyaient pas un cancre, mais se disaient c'est dommage parce que j'avais un réel problème d'attention, de concentration. Ça a été tout d'un coup le jour et la nuit, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu en plus sur scène en jouant au spectacle de fin d'année de mon collège, j'étais vraiment un cancre et je ne savais pas où me placer. Et tout d'un coup, je monte sur scène, je joue et je vois les profs me regarder et se marrer, rire. Et tout d'un coup, je me dis waouh, c'est puissant. Puis je me disais tout d'un coup, les gens m'estimaient, quoi. Et ça a évidemment changé ma vie d'enfant, d'ado et d'homme que je suis maintenant, quoi.
C'est ça qui est drôle chez vous, c'est que vous aimez l'humour. Oui. Mais par contre, vous ne rigolez pas quand on vous confie un rôle. C'est vraiment, vous êtes pointu sur le travail du rôle, sur l'apprentissage du texte.
Moi, j'ai toujours rêvé d'être là où je suis maintenant et il faut respecter son art, quoi. Mon art me permet d'aller dans les endroits où je n'aurais jamais pensé aller. J'ai rencontré des gens où je n'aurais jamais pensé rencontrer des gens. Et c'est vrai que je me dis, c'est grâce à mon art, en fait. C'est parce que j'ai voulu ce métier. Et donc, il faut respecter son art. Donc, la moindre des choses, quand un metteur en scène te dit qu'il a envie de travailler avec toi, c'est que, bah, que t'arrives et que tu saches ton texte, que tu sois pointu. Rarement, tu me répètes deux fois les indications parce que j'aime aller vite. Et j'allais pas vite à l'école, mais là, rarement, tu me fais répéter deux fois les indications d'un metteur en scène, quoi. Mais c'est normal.
Vous avez touché à tout, au dramatique, mais l'humour, la comédie, c'est vraiment votre credo. C'est vraiment ce qui vous attire le plus.
Bah, c'est ce qui me... Puis alors, vous savez, c'est que j'ai joué Un homme ordinaire, Dupont-Ligonnès, inspiré de la vie de Dupont-Ligonnès. J'ai fait Mensonge avec Audrey Fleurot, où je fais un violeur, enfin bref, horrible.
Quelqu'un de très inquiétant.
Très inquiétant, ouais. Voilà, et après, mon agent me disait que fallait pas que je m'éparpille trop, que je donnais pas la bonne clé aux gens. Et donc je me suis dit bon, ok, d'accord, mais j'ai dit, en même temps c'est une chance incroyable qu'on me propose. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose aussi là-dedans. Mais donc je suis reparti un peu à la comédie, purement comédie. Et là, ça me plaît aussi. J'ai eu Panique au Grand Magasin que j'ai produit, que j'ai écrit, réalisé avec Tom Villa. Je me dis je vais faire mes propres choses. Alors comme des fois je reçois des scénarios où je me dis j'ai pas envie de ça. Je me suis dit au lieu de me plaindre, je vais les écrire. Hein. Ça va être plus simple. Hein.
Merci beaucoup Arnaud Ducret d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Cochon d'Inde sur scène au Théâtre des Nouveautés à Paris. Ce sera à partir du 22 janvier 2026. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous. Élodie Suigo. On retrouve le monde d'Élodie sur l'application Radio France. C'est l'heure de la météo.
France Info Météo, avec l'alarme Vérissure, dissuasion, détection, vérification et mise en fuite. Pour une protection complète jour et nuit, devis gratuit sur Vérissure.fr.
Et Christine Peña, le temps est un peu plus calme.
Un peu plus calme, effectivement. Un petit peu, oui. Alors la vigilance reste en place au moins jusqu'à 10h. Elle changera certainement à partir de là. Côté neige, elle se délite en fait. Hein. La neige est encore présente, c'est vrai, vers le Poitou-Charentes, le nord Gironde. Ailleurs, c'est vraiment... un peu de neige, mais vraiment très peu de quantité. Vers le sud des Landes, proche de la frontière avec le Pays Basque, là, il neige. Alors, Il faut faire attention quand même. Entre les Vosges, le Bas-Rhin aussi, mais c'est vraiment très peu. Vers le nord, Auvergne, il neigeote. Voilà. Cet après-midi, le temps sera plus sec. Le soleil revient sur la partie nord. À l'ouest également. L'élément important ce matin, c'est le froid. Des températures vraiment très basses. À Alençon, au Mans, Chartres, Orléans, on a du moins 8, moins 10 degrés très souvent. Même en région parisienne, hein, vers les Yvelines, on a des pointes à moins 10 degrés par endroit. Du côté de Nantes, moins 5, moins 6 degrés, très froid sur les régions, donc sous la neige surtout, jusqu'à moins 20 degrés du côté du Jura. Ouais. Les cumuls de neige sont également importants, exceptionnels. 7 cm de neige à la Roche-sur-Yon, c'est pas souvent. Hein. En Charente aussi, des pointes à plus de 20 cm et il neige encore ce matin un peu. Hein. Pour ce soir, on aura une nouvelle vigilance pour la neige, mais de demain, cette fois-ci, rebelote, hein, avec un nouvel épisode très neigeux sur à peu près les mêmes régions d'ailleurs, et ça sera suivi d'un net redoux et sans doute d'une tempête. Des vents puissants sont attendus, plus de 100 km/h, dépassés près de la Manche ou encore vers le nord de la Seine.
Et on suivra tout ça évidemment avec vous. Merci beaucoup Christine Peña, spécialiste météo de la rédaction de France Info. Au programme de la prochaine demi-heure, France Info en Colombie, où l'on s'inquiète d'une possible intervention militaire des États-Unis après la capture du président du pays voisin, le Venezuela. Plus de publicité en journée à la télé ou sur les réseaux sociaux pour la malbouffe. Le choix de France Info sera en Grande-Bretagne où l'obésité gagne du terrain. Ce sera cette fois dans 20 minutes. Merci beaucoup d'écouter France Info ce 6 janvier. Il est 5h30 et c'est l'heure d'un nouveau journal.
France Info. William Guécostin.
Les mêmes images reviennent à chaque épisode de neige en région parisienne, surtout des routes qui saturent, des voitures bloquées. Et hier soir, évidemment, rebelote. Plus de 1000 km de bouchons enregistrés pour la seule Île-de-France. C'est un record. Et dans les voitures, des automobilistes, évidemment, très agacés, comme ici à Massy, dans l'Essonne, Raphaël Ben Abdelmoumen.
C'est la fin du trajet pour Martin. Il est parti 2 heures plus tard que d'habitude du travail pour éviter les bouchons. Mais finalement...
C'était un cauchemar.
C'est super long, j'ai failli prendre un trottoir à un moment donné, ça glissait, c'est vraiment compliqué. J'ai quand même mis une heure pour rentrer de Corbeil à Massy.
Soit le double du temps de trajet habituel, mais il n'est pas vraiment étonné.
Dès qu'il y a de la neige, j'ai l'impression que les gens paniquent. Par exemple, au Canada, il y a ça tous les jours et ça se passe très bien. En France, j'ai l'impression que c'est très mal géré. Donc peut-être s'inspirer de eux, comment ils gèrent, et voir ce qu'il y a de bon à prendre chez eux.
À commencer par le salage des routes, insuffisant selon Karim.
Je pense qu'il n'y a pas eu d'anticipation par rapport à ça. Et ouais, la dépanneuse avec qui passait là, qui arrêtait pas de faire des allers-retours avec des véhicules derrière dessus. La météo, apparemment, ils avaient annoncé de la neige, donc ça allait les routes, ça allait les trottoirs, et ça aurait été du bien pour tout le monde. Quoi.
Et puis, c'est aussi aux automobilistes de s'équiper, estime Thierry.
On aurait dû aussi prévoir des pneus neige d'hiver, et le problème, c'est qu'on pense pas tous à faire cette démarche. Si on avait tous les bons pneus, ben, y aurait moins de problèmes sur les routes. Mais après, la neige, c'est la nature, quoi, donc on peut pas trop râler non plus.
Il a quand même prévu de partir au travail plus tôt ce matin et espère que les routes seront dégagé.
France Info, reportage signé Raphaël Ben Abdelmoumen en Essonne, l'un des 26 départements toujours en vigilance orange à la neige et au verglas. Alerte qui s'étend de l'Oise jusqu'à la Charente-Maritime avec des transports scolaires suspendus. Près de 7500 agents des routes sont mobilisés pour les entretenir, les déneiger et enlever éventuellement le verglas. Des tirs ont retenti cette nuit à Caracas, au Venezuela, autour du palais présidentiel. La sécurité a ouvert le feu sur des drones. La situation est sous contrôle selon les autorités. Un nouvel épisode de tension après cette capture spectaculaire il y a 2 jours du président Maduro par des soldats américains. Il a comparu d'ailleurs hier devant la justice à New York, accusé de narcoterrorisme. Il plaide non coupable et se qualifie de prisonnier de guerre. En France, 77% des bovins du Sud-Ouest ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire, selon le dernier bilan du ministère de l'Agriculture. Maladie contagieuse qui pousse les autorités à abattre des troupeaux entiers lorsqu'un cas est détecté. Politique à l'origine d'un mouvement de la coordination rurale qui promet une mobilisation aujourd'hui à Paris, au lendemain d'un rendez-vous avec le Premier ministre qui n'a visiblement donc pas convaincu le syndicat. Et le président de la coordination rurale, Bertrand Ventot, lui, dénonce aussi l'interdiction de circulation qui a été décidée pour les tracteurs dans de nombreuses régions.
Vu le nombre d'arrêtés préfectoraux qui sont tombés par département ou par grande région, oui, il y a une véritable entrave. On montera à Paris d'une façon ou d'une autre, on y montera et c'est certain. On aurait été content, à minima, d'avoir un appel du ministère de l'Intérieur qui échange avec nous pour sécuriser les convois et pour qu'on puisse se caler ensemble. Ça n'a même pas été fait. Donc c'est qu'il n'y a pas une ouverture de dialogue qui est fait par le ministre de l'Intérieur. Je vous dis, l'entrée en matière de la réunion a été sur ce sujet-là. D'ailleurs, on a failli partir dès le début de la réunion, parce qu'on est maltraité, on n'est pas considéré. Et je vous le dis, on ne vient pas pour déverser des tonnes de gravats et tout écraser sur notre passage. On vient pour faire un convoi, pour porter des doléances au lieu de décision qu'est Paris et que sont l'Assemblée nationale et le Sénat.
Le président de la coordination rurale. Et puis Rome a fait le plein de pèlerins en 2025. C'est le moins que l'on puisse dire. 33 millions de personnes sont venues dans la ville éternelle pour le jubilé. C'est un événement pour les catholiques, sans oublier évidemment les funérailles du pape François et l'élection de Léon XIV qui ont fait venir beaucoup de monde au Vatican. Merci d'écouter France Info. Il est 5h34.
France Info. 5h-6h. William DeCosta.
Et revenons désormais à la situation explosive sur le continent américain. Deux jours seulement après cette capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis, la Colombie est aussi dans le viseur de Donald Trump qui accuse le président colombien Gustavo Petro d'être un malade. Ce sont ses mots, d'être lié lui aussi au narcotrafic. Le président américain estime qu'une opération militaire en Colombie serait là aussi une bonne chose, et cela inquiète évidemment les Colombiens de la ville frontalière de Cúcuta, qui est à la frontière avec le Venezuela, que vous avez rencontré pour France Info, Faustine Calmel.
En fin de journée, les perruches ont envahi les hauts arbres de la place Santander. Evelyne rentre de quelques courses, la jeune femme travaille dans les crypto-monnaies et soupire quand on lui parle de Donald Trump et des menaces venues des États-Unis.
Ce sont eux qui dirigent le monde, ils font ce qu'ils veulent. Ils interviennent quand ils veulent. Et ils volent le pétrole et les richesses des autres. Alors oui, cela nous inquiète, car l'économie s'affaiblit. Nous ne pouvons plus travailler. Nous ne pouvons plus sortir.
Comme beaucoup de ceux qui travaillent ici, Evelyne n'apprécie pas forcément son président, Gustavo Petro, critiqué pour sa politique de gauche, mais elle refuse pour autant d'être soumise aux injonctions de Donald Trump. Un peu plus loin passe Juan Torres, publicitaire, très agacé par l'hégémonie américaine.
Elle est où la justice de Trump, des États-Unis? Ce sont des incendiaires. En disant de Maduro que c'est un narcotrafiquant, ils veulent seulement mettre la main sur le pétrole du Venezuela. C'est impossible. J'en appelle à la Colombie, la Russie, la Chine, la Corée pour que les États-Unis sentent enfin le pouvoir des autres.
Un front face aux États-Unis, c'est aussi ce que préconise Alirio Peñaranda Mora. Lui est avocat et plaide ici pour une solidarité régionale.
L'Amérique latine doit s'unir, faire entendre ses protestations par la voix des organisations internationale pour que cesse ce harcèlement de la part des États-Unis. Nos gouvernements doivent se rapprocher pour empêcher que ces menaces d'invasion et de domination du peuple latino-américain ne soient mises à exécution.
L'avocat poursuit, certes, la voix des instances internationales est aujourd'hui peu écoutée, elle doit pourtant pouvoir continuer à s'exprimer.
Le reportage à Cúcuta, en Colombie, signé Faustine Calmel et Benjamin Thuot. C'est indéniablement un événement historique qui a eu lieu hier soir à New York. Nous l'avons évoqué tout au long de ce 5-6, cette comparution du président vénézuélien déchu, Nicolas Maduro, capturé dans son palais présidentiel et ensuite présenté donc hier soir à la justice américaine. Il a plaidé non coupable des chefs d'accusation qui sont retenus contre lui, principalement pour trafic de drogue. Il comparaîtra à nouveau le 17 mars et nous le disions, événement historique, mise en scène, largement mise en scène, ce passage devant un juge fédéral new-yorkais. Et selon Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis, il s'agit là évidemment d'envoyer un message sur la puissance américaine.
Il y a toujours cette dimension de démonstration de force de la justice états-unienne qui montre que si elle a décidé d'appréhender un narcotrafiquant présumé, puisqu'il n'est pas encore jugé, rien ne peut l'arrêter. Et évidemment, il y avait vraiment une forme de mise en spectacle de ce chef d'État déchu, même si lui l'a contesté, mais qui n'avait pas pu échapper au aux griffes de la justice fédérale américaine. Alors pour la suite, bon, comme Gwendal Davina le rapportait, ça a été un peu sans surprise. Hein. On se doutait bien que Maduro allait plaider non coupable et rappeler qu'il était, à son sens, un chef d'État kidnappé. Bon, il faudra voir ensuite le déroulement de la procédure. Néanmoins, il faut quand même souligner qu'il y avait quand même un paradoxe à voir Maduro se faire signifier ses chefs d'inculpation pour conspiration narcotrafic, donc de trafic de drogue international, etc. Alors que, donc, et qui sont amenés contre lui par le ministère de la Justice de l'administration Trump, alors qu'il y a un mois, le même Trump a gracié un autre ex-chef d'État d'Amérique centrale qui est Hernandez, l'ex-président du Honduras, qui lui avait été condamné à des dizaines d'années de prison par la justice fédérale américaine pour trafic de drogue. Il a été gracié, il faut le rappeler, par Donald Trump. On pouvait trouver quand même un petit peu étrange cette la mise en spectacle d'un côté. Il y a un mois, cette grâce qui a, il faut le dire, beaucoup surpris aux États-Unis et en Amérique latine.
Alors, Quentin Célin, beaucoup de choses, évidemment, je le disais, se sont passées ces derniers jours. Comment expliquer ce qui s'est passé, cette attitude de Donald Trump, qui avait promis lors de sa campagne électorale de ne pas s'occuper des affaires extérieures, Make America Great Again, visiblement. Ce Make America Great Again passe désormais pour Donald Trump par beaucoup d'interventionnisme, ce qu'il s'était juré de ne pas faire au départ.
Si on est un peu taquin, on pourrait dire que Trump n'a pas changé. Il donne simplement une conception très extensive du America, c'est-à-dire que les États-Unis, revenons, il faut le dire, à une tradition historique très ancienne, hein, celle du corollaire de Theodore Roosevelt à la doctrine de Monroe, celle de la fin du 19e, du début du 20e siècle, eh bien, considère que l'Amérique, c'est leur continent. Ensuite, sur la notion d'interventionnisme, et ce sera et c'est déjà un des arguments à la fois politique et juridique de l'administration Trump, c'est de dire « Ah, mais nous n'avons fait qu'une exfiltration judiciaire d'un chef d'État narcotrafiquant qui était poursuivi par la justice fédérale depuis des années, puisqu'il faut rappeler que Maduro était inculpé depuis 2020, ce n'est pas une véritable intervention militaire. » Sauf qu'évidemment, cet argument-là ne convainc que ceux qui veulent être convaincus, puisque bien entendu, l'exfiltration de Maduro a nécessité une véritable opération militaire qui a fait des dizaines de morts, visiblement, du côté vénézuélien, même s'il n'y a pas eu de victimes du côté américain. Et c'est un déploiement de forces militaires à l'étranger, donc qui pose aussi la question de son autorisation, qui n'a pas eu lieu par le Congrès, puisque normalement, le Congrès doit approuver toute autorisation de la force militaire à l'étranger, sauf en cas de légitime défense ou de menace pour la sécurité nationale par le président. Donc ça pose énormément de questions, mais disons que pour Trump, c'est l'application de sa nouvelle stratégie de sécurité nationale sur le continent américain. Il ne peut plus y avoir d'ennemis idéologique, comme l'était Maduro et son régime chaviste, et il ne peut plus y avoir de barrière vis-à-vis des ressources naturelles et stratégiques du continent américain pour les États-Unis. La même logique s'applique évidemment pour Cuba, vieil ennemi, vieille obsession états-unienne depuis son passage au communisme en 1959-60.
Et allié du Venezuela, en plus.
Et allié du Venezuela. Par ailleurs, il faut rappeler que Marco Rubio, le secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, et qui est très clairement à la manœuvre ces dernières heures, est un fils d'immigré cubain anticommuniste dont l'obsession, j'allais dire, ontologique est de faire tomber le régime castriste. Donc, bien sûr, Cuba. La Colombie, c'est un autre argument, mais qui est aussi dans la stratégie de sécurité nationale, c'est de dire aucun État, évidemment, sur le continent américain, ne peut être non plus une menace pour la sécurité intérieure. Or, la Colombie, et Trump ne cesse de le répéter, c'est le grand producteur et exportateur de cocaïne sur le continent américain et vers les États-Unis. Et donc, puisque on avait déjà axé l'intervention Venezuela sur la lutte contre la drogue, alors même que bon, le rôle du Venezuela sur les drogues importées aux États-Unis est beaucoup plus limité. Pour la Colombie, évidemment, on retrouve cette idée que désormais, on n'acceptera plus d'État qui puisse être une menace pour la sécurité intérieure des États-Unis, comme là le prétend Donald Trump pour la Colombie, avec le trafic de cocaïne.
Les Européens, c'est vrai, ont choisi de faire, on va le dire de manière générale, profil bas. Mais que pensent les démocrates, les opposants politiques à Donald Trump aux États-Unis, peut-être y compris même les républicains au sein du Congrès, de toute cette séquence qui vient de se dérouler? On en a très peu entendu parler.
Des réactions différenciées. Évidemment, dans le camp républicain, c'est quand même la liesse et la félicitation pour le succès tactique militaire de la capture de Maduro, à quelques exceptions près. Chez, j'allais dire, les dissidents MAGA comme Marjorie Taylor Greene, la représentante de Géorgie, qui disent « Nous avons construit le trumpisme sur le refus des aventures militaires à l'extérieur et voilà que Trump, en quelque sorte, si vous me permettez, se transforme en Bush. » Donc, ça ne va pas. Donc, mais c'est une position qui est minoritaire chez les républicains. Chez les démocrates, c'est évidemment un tollé, mais les démocrates se concentrent évidemment sur la légalité interne de cette opération et disent « Trump aurait dû demander l'approbation au Congrès ». Mais évidemment, les démocrates sont gênés aux entournures parce que, bon, défendre Maduro, dictateur totalement illégitime, qui avait truqué des élections, ça paraît difficile. Donc ils se concentrent sur la légalité de l'opération en veillant bien pour ne pas apparaître comme défendant Maduro et son illégitimité.
Voilà pour cette analyse de Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis, qui répondait sur France Info à Julien Langlais. Un ascenseur sur deux risque d'être obsolète d'ici la fin de l'année. Aucun technicien ne pourrait répondre à votre appel si vous restez coincé dans la cabine. Et tout ça, c'est une histoire de réseau téléphonique. On va tout vous expliquer dans un instant.
France Info. 5h-6h.
6h moins le quart, l'heure de l'info en une minute avec Maureen Suignard. Et à la une, Maureen, des routes glissantes et dangereuses ce matin.
À cause de la neige et du verglas, 26 départements sont en vigilance orange dans un grand quart nord-ouest de la France, de la Charente-Maritime à l'Oise. Il continue de neiger en Charente-Maritime. Il y a jusqu'à 20 cm de neige localement, ce qui est assez exceptionnel selon Météo France. Sébastien Lecornu poursuit ses consultations des syndicats agricoles. La FNSEA sera reçue cet après-midi alors que les agriculteurs se mobilisent encore contre la gestion de la dermatose et contre un accord avec les pays sud-américains du Mercosur. La coordination rurale veut aussi continuer à manifester malgré plusieurs arrêtés préfectoraux qui interdisent la circulation de convois de tracteurs. Une attaque américaine sur un pays de l'OTAN serait la fin de tout, prévient la première ministre danoise. La fin de l'OTAN et donc de la sécurité mise en place depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, selon Mette Frederiksen. Hier, le président américain a affirmé que les États-Unis avaient besoin du Groenland pour assurer leur sécurité. Le Groenland qui est un territoire du Danemark. Et puis à la Coupe d'Afrique des Nations, place au dernier huitième de finale. À 17h, l'Algérie affronte la République démocratique du Congo.
France Info.
Votre portable carbure sans doute à la 4G, voire à la 5G. La technologie s'est désormais démocratisée. Alors la 2G va disparaître cette année. Les opérateurs vont progressivement la mettre hors service, tout comme la 3G qui a encore quelques années devant elle. Et si vous n'en avez plus besoin pour votre téléphone, en revanche, les ascenseurs l'utilisent toujours pour leurs dispositifs d'alarme qui permettent de contacter un technicien en cas de panne. Près de la moitié des ascenseurs français sont potentiellement concernés par cette fin de la 2G et les ascensoristes alertent. Il faut mettre à jour les ascenseurs en urgence, Boris Allier.
Aujourd'hui, la mission de Cheikh Ousourabi, c'est de modifier le dispositif d'alarme d'un ascenseur dans le 19e arrondissement de Paris.
Là, j'ai installé une affiche pour que l'usager soit informé que je travaille sur l'ascenseur.
Le technicien de l'entreprise connaît, met la cabine hors service, le temps de l'intervention qui se déroule sur le toit dans le local technique.
Aujourd'hui, l'ascenseur est raccordé via une ligne analogique France Télécom, qui est aujourd'hui fonctionnelle, mais plus pour longtemps.
Un réseau obsolète qui va être remplacé par un boîtier GSM.
Le GSM, c'est une boîte qui permet d'avoir du réseau téléphonique qui a un lien avec le transmetteur qui se trouve dans la cabine. Donc, l'alimentation est mise pour le GSM. Dans quelques secondes, il va se remettre à chercher du réseau.
Il ne reste plus qu'à tester la nouvelle ligne directement dans la cabine.
Société quoi ? Oui, bonjour, technicien Koné pour un essai.
Près de la moitié des 650 000 ascenseurs français seraient encore équipés de dispositifs analogiques 2G ou 3G. Et c'est bien au propriétaire ou au syndic de lancer les travaux, rappelle Olivier Principal, président de la Fédération de l'immobilier Grand Paris.
D'abord, il appartient à l'ascensoriste de déterminer si l'ascenseur est concerné ou pas. Et si c'est le cas, de proposer une solution technique. Car lorsqu'il n'y a plus ou de téléalarme, l'ascenseur doit être mis à l'arrêt.
Et il n'y a pas de temps à perdre puisque la 2G va être désactivée dès le mois d'avril, des délais qui restent très courts et un calendrier plutôt flou.
Si on avait eu une information précise, coordonnée, les choses auraient été mieux gérées. Pourquoi je vous dis coordonnée ? Parce que les opérateurs n'ont pas la même date de fin. Ça commence, je crois, dans les Landes en avril 2026 et ça va se finir à la fin 2026. Mais selon les calendriers propres de chacun des opérateurs.
Et la désactivation de la 3G, elle, est prévue plutôt pour 2028. Mais les ascenseurs ne sont pas les seuls concernés. Certains interphones pour les entrées d'immeubles et certains systèmes de télésurveillance vont eux aussi devoir être modifiés.
France Info, reportage signé Boris Allier. Il est 5h49 et c'est l'heure du choix de France Info. Fini les pubs pour les sodas, pour les produits trop gras, trop sucrés. Nous sommes ce matin au Royaume-Uni où le gouvernement vient d'interdire les publicités pour la malbouffe avant 21h, que ce soit à la télévision ou sur Internet. Mesure pour inciter les industriels à revoir leurs recettes pour rendre leurs produits moins nocifs pour la santé. Bonjour Gaëlle Joly.
Bonjour.
En Grande-Bretagne pour France Info, pays où un enfant sur quatre est en surpoids, voire obèse à la fin de l'école primaire. Illustration dans le sud de Londres.
Il y a des fast-foods partout. Il y en a un là, là, là. Toutes les deux minutes, vous en trouvez un.
On est dans les rues de Peckham Rye et dans ce quartier du sud de Londres où les fast-foods prolifèrent. Un tiers des enfants sont obèses. On va aller parler à ce petit groupe de jeunes.
Moi, mes potes, ils mangent des chips au poulet tous les jours. Mais vraiment tous les jours.
Mes copains et moi, on mange des pizzas. On va dans les fast-foods très souvent, deux fois par semaine environ.
Vous mangez pas avec vos parents ?
Non, on ouvre le frigo, on prend, je sais pas, des trucs surgelés qu'on met au micro-ondes et on monte dans notre chambre pour manger.
Oui, je pense que les gens en Angleterre, ils préfèrent prendre à emporter plutôt que d'acheter des ingrédients pour cuisiner. La restauration rapide, c'est beaucoup moins cher que de faire ses repas. Dans son cabinet, Francine Joyce, nutritionniste, voit défiler tous les jours des familles frappées par l'obésité.
En France, on a la culture de l'alimentation saine et en famille. En Angleterre, c'est pas du tout ça. On mange pour avoir de l'énergie. Il n'y a pas de repas en famille. Les enfants, moi c'est ce que je vois dans mon cabinet, des enfants qui mangent dans leur chambre devant leur écran. Quand on regarde ce qui se passe à la cantine, en France, c'est très légalisé. Ce n'est pas le cas du tout en Angleterre. Les enfants vont à partir de 6 mois dans des nurseries où les enfants mangent toutes les 2 heures. Et c'est un petit peu la politique du snacking. Ils vont manger des chips, ils vont manger des scones. Les scones, c'est de la farine et de l'eau. Si ça continue à ce rythme-là, ça va faire 1 adulte sur 3 qui plus tard sera obèse. C'est énorme, c'est un problème de santé publique colossal, vraiment.
Et la situation est tellement préoccupante, Gaëlle, que des jeunes, depuis quelques années en Angleterre, s'engagent pour défier l'industrie agroalimentaire.
Oui, ce sont des food activistes. Ils militent pour une alimentation plus saine. On les retrouve à leur QG au siège de l'association Bite Back 2030 qui mène des campagnes contre les industriels. Dan est bénévole, il a 19 ans. Il se souvient très bien du moment précis où il a décidé de s'engager.
Un jour, je suis sorti d'un examen. La pizzeria Domino's Pizza m'a envoyé un SMS pour me féliciter d'avoir terminé mes examens en me réconfortant d'un message chaleureux. Ça disait « Tu sais quoi ? Profite de cette offre. Tu le mérites. » Et là, j'ai réalisé que ces entreprises me connaissaient mieux que ma propre famille. Elles possèdent une quantité incroyable d'informations sur moi et elles les utilisent pour me vendre de la malbouffe au détriment de ma santé et de celle de mes amis.
Et c'est justement l'ONG Bite Back 2030 qui a réussi à faire interdire la publicité pour la malbouffe à la télévision et sur Internet. Mais pour son président Darcy Williams, le combat est loin d'être terminé.
L'interdiction qui arrive là va surtout déplacer la publicité pour la malbouffe des écrans vers les rues. Or, même si le numérique est important, ce n'est pas le seul endroit où les jeunes passent du temps. Ils sont exposés à ce type de marketing nocif dans tous les aspects de leur vie quotidienne, autour des écoles, dans les rues commerçantes et dans les lieux où ils se retrouvent. Et il est essentiel de protéger la santé des enfants, peu importe où ils se trouvent. Ces entreprises dépensent des millions pour faire du lobbying auprès des gouvernements et freiner les mesures de santé publique. Tout ça au nom du profit.
Le gouvernement britannique estime de son côté que cette interdiction de la pub pour la malbouffe permettra d'éviter 20 000 cas d'obésité infantile par an. Il doit également prochainement annoncer l'interdiction de la vente des boissons énergisantes aux moins de 16 ans.
Le choix de France Info, signé ce matin Gaëlle Joly, correspondante à Londres de la rédaction. La nouvelle chanson des Enfoirés arrive dans la playlist de Maureen Suignard. Ce sera après les trois titres de l'Actu Éco avec Emmanuel Cuny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Il sera bientôt peut-être possible de retirer de l'argent plus facilement des plans d'épargne entreprise.
Le ministère de l'économie étudie en effet la possibilité pour les salariés modestes de sortir exceptionnellement de leur plan d'épargne 2000 euros dès cette année et de manière défiscalisée, c'est-à-dire sans payer d'impôts sur les sommes retirées, qui resteraient quand même soumises notamment à la CSG, la contribution sociale généralisée. Les salariés concernés devront gagner au maximum l'équivalent de 2 SMIC. Jusqu'à présent, les sommes placées sur les plans d'épargne salariale sont normalement bloqués 5 ans, sauf dans certains cas liés aux situations familiales.
Et on va y revenir longuement dans le journal de Solène Cressant à 6h qui arrive donc dans 5 minutes sur France Info. Deuxième titre, Emmanuel, un groupe français qui reçoit le soutien public des autorités américaines.
Oui, le spécialiste du nucléaire Orano obtient 900 millions de dollars, ça fait près de 770 millions d'euros de la part des États-Unis, donc pour construire une usine de production d'uranium enrichi sur le sol américain. Orano a été choisi par le département de l'énergie à Washington. Ce soutien au projet de l'entreprise française s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de l'administration Trump qui vise à encourager la production nucléaire aux États-Unis.
La Suisse décide de bloquer les éventuels avoirs du président vénézuélien déchu Nicolas Maduro.
Oui, décision avec effet immédiat, précise le gouvernement suisse. D'autres personnes liées directement à Maduro sont également concernées par cette mesure qui est destinée en fait à empêcher toute fuite de capitaux du territoire suisse où il serait éventuellement placé.
Emmanuel Cuny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info pour le Brief Éco.
Dans le contexte d'incertitude politique en France et malgré la situation chaotique de l'économie mondiale, les dirigeants d'entreprises français préfèrent miser sur le développement international de leur activité. Dynamisme mis en valeur par le dernier baromètre de dirigeants français piloté par le cabinet Eurogroup Consulting, mais qui ne joue pas vraiment en faveur de la réindustrialisation en France.
Merci beaucoup Emmanuel et à tout à l'heure. Il est 5h55 et c'est l'heure de votre playlist du jour, Maureen Suignard, avec ce matin un titre d'une troupe bien particulière.
Celle des Enfoirés, créée en 1985 pour chanter au profit des Restos du Cœur, l'association créée par Coluche, qui vient en aide aux plus pauvres. Eh bien William, les Enfoirés sont de retour.
Moi je suis la rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie.
Quand tout se casse vient d'être dévoilé, titre écrit et composé par la musicienne et chanteuse Santa qui a intégré la bande il y a maintenant 2 ans. Et vous l'entendez, ce titre débute avec le discours du fondateur des Restos. Deux grands noms de la chanson française se succèdent ensuite. Zazie, Patrick Fiori, Chaim, Sofia et Saïdi, Christophe Maé, Soprano et Christophe Willem. Et il y a une petite nouvelle, Elena de la Star Academy 2024, une manière sûrement de séduire aussi les plus jeunes, puisque l'objectif premier de ce titre est de récolter des fonds. L'année dernière, au milieu d'une année assez morose pour les ventes de disques, les ventes de l'enregistrement du spectacle des Enfoirés ont chuté, presque 113 000 CD vendus contre 280 000 en 2015. Mais les Enfoirés, William, ne s'avouent pas vaincus, ils sont toujours très demandés. Les 7 concerts prévus à l'Accor Arena de Paris sont complets depuis la mise en vente des billets en octobre dernier. Ça représente quand même 70 000 spectateurs au total. Et la première date, ce sera le 13 janvier, mardi prochain. Selon nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, il y a aussi pour la première fois en 40 ans un deuxième single qui va sortir pour cette édition 2026. Un morceau créé par Gaëtan Roussel et qui va sortir en même temps que l'album autour du mois de mars. Pour le moment, désolé, je vais en décevoir certains, aucun Jean-Jacques Goldman à l'horizon.
Là.
En 2016, au moment de son départ, l'ancien directeur artistique des Enfoirés n'avait pas fermé la porte à un retour. Je reviendrai avec plaisir dans quelques années, si l'on m'invite, avait-il dit. En attendant, on peut aussi réviser nos classiques, William.
acheté des CD, des mugs, des chaussettes. L'année dernière, ça a rapporté 13 millions d'euros au resto.
Et sinon, on peut faire un don aussi sur restoducœur.org, un don en ligne. En plus, c'est défiscalisable, donc il n'y a vraiment, mais alors vraiment, aucune excuse. Merci beaucoup Maureen Suignard pour la playlist du jour. On va jeter désormais un petit coup d'œil au ciel.
France Info Météo avec Vérissure. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle priorité, votre sécurité. Demande de devis gratuit en moins d'une minute sur verissure.fr.
Au ciel et au thermomètre, Christine oui. Peña avec un froid glacial.
Mais oui, c'est l'élément important de cette journée, c'est ce froid, hein, des températures vraiment très basses. Alençon, Le Mans, Chartres, Orléans, on est de moins 8 à moins 10 degrés, mais très souvent, hein, même en région parisienne, nous avons dans les Yvelines des pointes à moins 10 degrés par endroit. Du côté de Nantes, moins 5, moins 6 degrés. C'est vraiment très froid, surtout sur les régions sous la neige. La neige participe à accentuer ce froid jusqu'à moins 20 degrés du côté du Jura. C'est certainement là qu'il fait le plus froid. Exceptionnel et inédit aussi, cette neige qu'il est tombée. Hein, les cumuls sont très importants. À l'ouest notamment, on va pouvoir peut-être ouvrir des stations de ski du côté de la Vendée. 7 cm de neige fraîche à La Roche-sur-Yon et en Charente des pointes à 20 cm. Et ce n'est pas fini puisqu'il neige un petit peu encore du côté de la Charente ou encore du Bordelais. Nous avons cette neige hein, qui devrait se déliter, terminer de tomber en tout cas pour aujourd'hui. Mais on a un nouvel épisode de neige très important encore annoncé pour demain.
Merci Christine Peña, je vous laisse ressortir avec votre maître ruban hein, pour mesurer voilà. L'épaisseur de la neige. Lui, il a écrit sa matinale sur son clavier en gardant ses moufles ce matin. Oui, c'est Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme.
Faites bien attention à ne pas glisser si vous sortez
sur oui, la moquette et le verglas.
Faites pas des pots de banane.
Voilà, non, on va évidemment avec toute l'équipe de France Info, Christine Peña à mes côtés, Solène Cressan, Maureen Suignard